La folle en costume de folie de Charles Ferdinand Ramu, enregistré par Christiane Jehan. Il s'était amusé pendant plus d'un mois à confectionner des costumes pour une représentation que la jeunesse du village avait donnée le lundi de Pâques dans la salle de commune. Les filles coupaient et cousaient, les garçons les regardaient faire en leur racontant des histoires. C'était le bon temps. Puis la représentation avait eu lieu, avec succès d'ailleurs, et fanfares et chœurs d'hommes et exercices de gymnastique. Mais hélas, la fête est finie. On était retombé à la demi-nuit des temps ennuyeux qui durent presque toute l'année, où il ne s'agit plus de rire, mais de travailler du matin au soir. Or, les costumes, qu'ils n'avaient mis qu'un jour, étant pour un seul jour alors sortis d'eux-mêmes, pour entrer dans une autre vie, les costumes étaient toujours là. Et, un samedi soir, garçons et filles, ils s'étaient réunis dans l'intention de les mettre en ordre. L'instituteur leur avait prêté une armoire pour le cas, disait-il, où ils auraient encore besoin de ces costumes. « C'est peu probable, » disait l'instituteur. Mais enfin, il s'agissait de leur donner un coup de fer. À quoi les filles s'employaient ? De les plier soigneusement, de les suspendre, et ceux qui étaient de laine, de les enfermer dans des boîtes avec des boules de naphtaline. « Et alors, moi qui étais la reine, ce sera comme si je ne l'avais jamais été. Et moi, j'étais le roi. Regarde ma couronne. On voit bien à présent qu'elle n'était qu'en fer blanc. Moi, je n'ai pas perdu grand-chose. J'étais domestique. » Alors, ils se considéraient chacun soi-même dans le passé, le regrettant sans trop en avoir l'air, tout en se passant les costumes, brillants, divers et bigarrés, qu'ils ne mettraient sans doute jamais plus, ayant maintenant des jupes comme tout le monde, ou des pantalons comme tout le monde, étant bonnement en bras de chemise, car il commençait à faire chaud, et pour ce qui est des filles, mesquinement vêtues de blouses de confection, en batiste, et c'est de la fausse, ou en coton, et c'est du faux. Les garçons passaient aux filles les costumes, à les ranger dans l'armoire, où elles empilaient les boîtes qui sentaient fort en même temps la mort et ce dont on se sert pour lutter contre la mort, comme des cercueils, ces boîtes. Les morts, on ne les revoit plus. Mais, au moment où ils allaient refermer l'armoire, quelqu'un a dit « Et celui-là »« Celui-là, ce serait dommage, quand il y en a tant qui devraient le porter. »« Ne le rentrez pas, » dit l'un des garçons, « on lui trouvera bien un propriétaire. » Il le déplie en plein jour. C'était un costume de folie. On voyait ces belles couleurs. On l'avait désépinglé, on l'étale, ils sont tous à l'admirer. Fait de toile d'argent et de drap rouge vif, un corsage rouge vif avec des découpures en forme de triangle, et à chacune de ces découpures un grelot qui était cousu. Et, dès qu'on le touchait, la sonnerie entrait en branle. On eût dit un troupeau de chèvres. Alors ils se mirent à rire, garçons et filles, avec les plaisanteries qu'on devine, disant « Toi, à qui le donnerais-tu » Et les garçons « On vous fait remarquer d'abord que c'est un costume de femme. » Et les filles « Si c'est ça qui vous gêne,
le bas ne sera pas difficile à changer. »
Quelqu'un les interrompit « Ne changez rien, j'en vois une à qui il conviendra tout juste. » « Qui c'est ?»« La Tia. » « C'est vrai, on n'y avait pas pensé. » Ils s'étonnaient de n'en avoir pas eu l'idée plus tôt. « Une vraie folle, dites donc. Croyez-vous que ça tombe bien ?»«
Entendu, » disait-il. « On va lui porter le costume. On lui en fera cadeau. Duperret, c'est toi qui t'en charges, parce que tu parles bien, Duperret. »
Et Duperret a bien voulu, pourvu, disait-il, qu'on l'accompagnât. Ils furent quatre. C'était une vraie folle, mais ce n'était pas une folle de naissance. Elle était devenue folle le jour où elle avait appris que son fiancé l'abandonnait. Il lui avait dit « Non, vois-tu, je crois que ça ne s'arrange pas. Mes parents ne sont toujours pas consentants. » Et elle ne l'avait pas revu. Il avait quitté le pays. Mais elle, elle disait qu'il allait revenir. Et, depuis ce jour-là, elle s'était mise à l'attendre. Elle disait « Ce sera demain. » Ainsi, 3 ans déjà avaient passé, mais elle persévérait quand même, se tenant tout le long du jour à sa fenêtre, d'où elle pouvait le voir venir de loin, vous disant « Bien sûr, je compte sur lui, il a seulement été faire un tour. » Et, le soir, se couchant, et puis la nuit écoulée, reprenant patience, reprenant confiance, pendant que les années passaient, ainsi elle avait eu 26, 27, 28 ans. Entre-temps, sa mère était morte. Elle vivait maintenant toute seule. C'était une folle, douce,
elle n'était peut-être pas malheureuse, parce qu'elle espérait toujours, faisant même plus qu'espérer. Elle mettait des fleurs dans ses cheveux, elle tenait en ordre son ménage, elle cueillait des petits fruits dans les bois, framboises et myrtilles, qu'elle allait vendre au marché, et y portait aussi des petites couronnes qu'elle confectionnait en tressant de la mousse autour d'un brin de coudrier. Et elle piquait dedans des pâquerettes du premier printemps, roses et blanches, se mettant à elle-même une couronne sur la tête, ce qui fait qu'elle était bien connue de tout le monde au chef-lieu. Elle disposait ses corbeilles devant elle, en les surélevant du bout sur l'exhaussement du trottoir, et derrière, attendait qu'on vînt, et on venait, pendant qu'elle vous riait contre, avec des dents belles blanches au commencement, puis qui étaient devenues jaunes, et se gâtaient. On disait aux enfants, on ira t'acheter une couronne chez la tia. Duperret et les trois autres garçons arrivèrent à la fin de l'après-midi. Elle était comme d'ordinaire à sa fenêtre. Ils lui souhaitèrent le bonjour, et puis Duperret s'avança. Elle s'était levée, était allée les attendre sur la porte de la cuisine qui ouvrait sur le jardin. Son jardin était un tout petit jardin, mais le plus beau et le plus fleuri du village, parce qu'elle disait « c'est pour lui ». Pas une place perdue, les fleurs se touchaient toutes et en toute saison. Elles étaient rangées par espèces des soleils au cœur brun, d'autres tout jaunes, les premiers ignats, les premières grosses marguerites, les capucines, des pieds d'alouette, toutes les sortes de fleurs et de toutes les couleurs, rouges, jaunes, grenats, bleus, violettes, et on ne voyait plus la terre sous ce revêtement coloré qui faisait là comme un de ces tapis qu'on confectionne avec des carrés d'étoffe vive qu'on coud ensemble et surbrodé, de sorte qu'on était surpris et le monde disait « c'est beau ». Mais elle, c'est pour lui, il va bientôt revenir. « Oh, écoutez !» dit Duperret, qui tenait sous son bras le costume enveloppé dans une feuille de papier. « Elle, est-ce que vous l'avez vu ?»« Pas encore, mais il pourrait bien se faire qu'on le voie un de ces jours. » Les trois autres garçons écoutaient, assis sur le mur. « Écoutez, » disait Duperret, « c'est justement, on a pensé à vous faciliter les choses. » Elle avait ce jour-là beaucoup de petits rubans roses noués dans les cheveux. « Il faut que ça se voie de loin, » il montrait les rubans. « Ça, ça ne se voit pas d'assez loin. Et puis, » dit-il encore, « quelque chose qui s'entende. » Dans ce même moment, il a ouvert le paquet, il a déplié le costume dont les couleurs se sont mises à briller, et le tenant étalé devant lui en même temps, car Duperret savait y faire, par une petite agitation de ses mains en faisant tinter les grelots qui ont fait une sonnerie, comme quand un troupeau de chèvres passe sur le chemin. « Oh !» dit la tia. « Oh, c'est joli, c'est pour moi ?»« Oui, » dit Duperret, « c'est pour vous, on vous le donne, mais à une condition, c'est que vous ne restiez pas chez vous, que vous vous montriez avec. D'ailleurs, à quoi est-ce que ça vous sert de rester toujours enfermé? Il faut vous faire voir. Vous mettez le costume, il a un capuchon, vous vous le passez sur la tête et ça sonne tout le temps. » Duperret dit, « Vous pouvez essayer. » Elle a tendu les mains. « Il vous va rudement bien, » disaient les garçons sur le mur. L'étoffe lui cachait les joues, les oreilles, le front, les cheveux, de sorte qu'ainsi accoutrée, le désordre qui était celui de sa toilette s'étant trouvé dissimulé, elle avait l'air d'une jeune et même d'une jolie fille, mince comme elle était, ses rides disparues, avec ses couleurs vives qui donnaient par reflet de l'éclat à son teint. « Dommage qu'on n'ait pas un miroir, » disait Duperret. « Oh, moi j'en ai un, » dit-elle. Elle avait été le chercher. Elle penchait la tête en se mirant dedans et riait à sa propre image. Et comme elle se levait, les petits grelots se mirent à tinter avec un bruit de source sur les cailloux dans le soleil. Ensuite, elle avait voulu ôter son costume. Mais les garçons, « Non, gardez-le. Il vous va bien mieux que vos robes. Gardez-le. Allez vous montrer. » Elle est partie dans le village. Eux suivaient à quelque distance. Les grelots allaient devant elle. Elle demandait, « Croyez-vous qu'il va m'entendre ? Parce que je fais du bruit à présent. » Un vieux, avec des lunettes, s'était arrêté, ouvrant la bouche d'étonnement. Il disait, « Mais c'est la tia, qu'est-ce qui lui passe par la tête ?» Puis, se tournant vers des femmes qui étaient un peu plus loin, il se touche le front du doigt. Tout le monde était sur le pas des portes. Sa chanson allait devant elle. Les gamins lui couraient après. Elle disait, « C'est rouge, c'est en argent, ça brille. Cette fois, il va me voir. C'était ennuyeux d'attendre. Je n'en aurai plus besoin. » Et, comme on lui criait, « Hé, où vas-tu, la tia ?» Elle a montré du doigt l'église qui se dresse sur un monticule un peu en avant du village. « Un endroit qui se voit de loin. Laissez-la, disait-on. C'est les garçons qui lui font une farce. Elle, elle ne fait de tort à personne.
Ainsi tout le village a pu la voir passer. Par moments, elle secouait ses grelots fièrement dans le soleil, ou bien, communiquant un mouvement à son costume et le faisant frétiller autour d'elle, elle l'allumait dans le soleil comme un martin pêcheur ses plumes. Ainsi vue de tous et connue de tous, tandis que les vieux hochaient la tête, mais les jeunes s'amusaient, elle s'est dirigée du côté de l'église. Elle a monté le raidillon, puis est venue se planter devant la porte de la tour d'où on domine le pays. Il y a là une vieille pierre tombale dont on avait privé celui dont elle portait le nom. Mais le nom était effacé, et qu'on avait posé de champ contre le mur sur un des côtés du porche, ce qui avait donné un banc étroit, ou plutôt un simple rebord. Mais c'est là qu'elle s'est assise. Car de là, on voit d'enfilade trois routes qui viennent à vous et qui, pointues à l'autre bout, s'élargissent en se rapprochant. Une qui est noire, large et qui vient de l'est, une autre sinueuse et blanche, c'est plutôt un simple chemin, du nord. La troisième qui sort d'un bois au couchant où se voient étendues à plat d'ennuyeuses montagnes bleues. Elle avait pris place sur ce rebord étroit de tombe, n'ayant qu'à tourner de côté la tête pour voir au loin tout ce qui se mouvait vers vous. Et chaque jour, elle y est revenue, quelquefois entourée d'enfants qui la considéraient en se suçant le pouce, quelquefois en conversation avec un homme ou une femme que leur travail avait amené dans les environs, quelquefois seule. Et les gens raisonnables. Et puis, il pleuvait souvent. « Ma pauvre Tia, vous seriez mieux chez vous. » Elle se fâchait. « Et s'il venait ?» Secouant ses grelots, puis tournant la tête à droite et à gauche, observant cette route-ci, cette route-là, et cette troisième, et si quelqu'un ne venait pas, il venait toujours quelqu'un. Un point d'abord, un tout petit point noir, qui grossissait plus ou moins vite, et grandissait, prenant de la hauteur. C'était un tapséon, comme on dit, un marchand forain. Alors elle se mettait debout, puis elle se rasseyait, en secouant la tête. Ou bien le point se divisait, augmentant rapidement de dimension, c'était un char avec un cheval, et quelquefois un homme à bicyclette, comme on le devinait de loin au manège des jambes ou à un éclair que projetait dans le paysage le nickel de la machine. Alors elle ne se levait même pas, se contentant de secouer la tête. Lui, il ne venait toujours point. Et cependant, voyant de loin, elle était vue aussi de loin, de sorte qu'elle était guettée par le village. Et les uns disaient « Pauvre femme, c'est-il pourtant pas malheureux ?» Mais les autres s'amusaient. « C'est quand même une bonne blague. Combien de temps va-t-elle durer ?» Elle dura bien plus longtemps qu'on eût pu croire. Et quelques-uns parlaient déjà de porter plainte aux autorités qu'elle continuait à venir, et par tous les temps, avec son costume, et à se poster à la même place, tantôt secouant ses grelots, d'autres fois se levant et faisant le tour de l'église, sans jamais perdre de vue l'une ou l'autre des trois routes. Et ce n'était jamais lui qui venait. Mais elle n'était jamais découragée, bien que la saison fût plus froide, les pluies plus fréquentes et plus abondantes. Seulement, elle n'avait aussi qu'à s'appliquer plus étroitement contre le mur de l'église pour être à l'abri, sous l'avant-toit. La fête de jeunesse devait avoir lieu au mois de septembre, qui est le seul mois de l'année où on ait un peu de bon temps. On a fini les gros ouvrages, les labourages de l'automne ne sont pas encore commencés, et on peut s'accorder ainsi trois jours d'amusement avec bal et fanfare, et pont de danse, et tout, le samedi, le dimanche, le lundi, comme on fait toutes les années, comme on fit cette année-là. La Tia était toujours à sa place, et comme les gens de tous les environs avaient afflué au village, on la leur montrait, visible à distance à cause de ses belles couleurs. Les gens faisaient des groupes, on se tournait vers elle, les gens se tapaient sur la cuisse, ou bien ils éclataient de rire. Elle n'avait l'air de rien voir. Elle était bien trop absorbée à cause des trois routes et de la circulation ce jour-là, qui se faisait sur ces trois routes, presque désertes à l'ordinaire, mais plus noires de monde maintenant qu'une table de cuisine en été, lait de mouche. Tout le temps, des hommes, des femmes, les enfants et des attelages, des bicyclettes, les automobiles même, et tout ce qui s'en menait dans sa direction et affluait vers elle, particulièrement le soir.
de sorte qu'elle restait à son poste jusqu'à ce que la nuit la privât de toute vue, s'appliquant à suivre les yeux chacune de ses apparitions jusqu'à ce qu'on pût distinguer les traits, l'habillement et le comportement de ceux qui en avaient été l'occasion. Et c'est une grande fatigue, et chaque fois aussi un grand espoir toujours déçu, car il n'est pas venu. Le samedi s'est passé, il n'est toujours pas venu, et tout le dimanche encore. C'est seulement vers la fin de l'après-midi, quand tout le monde a déjà trop bu. On entendait tourner les manèges des chevaux de bois, à quoi le bal étrangement venait mêler sa musique de cuivre et le battement des souliers tous ensemble sur le pont de danse. C'est sur la route qui vient de l'est, la route noire, la route qui est large et qui est asphaltée, ce qui fait qu'elle luit tristement au soleil, déshabillée de sa poussière et de ses légers voiles blancs que le vent soulevait
sur les routes de terre.
Sur cette route qui vient de l'est. Tout à coup, comme ça, vers 6 heures. Vers 6 heures, c'est-à-dire peu avant le temps
qui est celui du souper en commun,
qui se prend sous la cantine avec du jambon de campagne, des choux et des pommes de terre, sans compter pas mal de litres de vin, ce qui attire les amateurs. Justement, il n'y avait eu presque personne sur la route, 1 heure ou 2, l'après-midi. Ceux qui viennent pour la danse étant déjà arrivés, et ceux pour manger et boire n'étant pas encore en chemin. Et, comme il faisait très chaud, on avait vu la route qui commençait à fondre, à se liquéfier, avec des places mates et des places luisantes, où les attelages avançaient moins vite parce que les roues enfonçaient. Presque plus personne
entre 4 et 6 heures.
Et puis, elle tendait les bras, elle secouait ses grelots. Est-ce qu'il ne va pas me voir? Est-ce qu'il ne va pas m'entendre? Est-ce que c'est bien lui? Elle n'en peut pas douter. C'est lui qui vient. Je l'ai attendu et il vient. Vous voyez bien. Il n'était pourtant encore qu'une vague forme sombre sur la route sombre, de sorte qu'on le distinguait mal. Mais elle reconnaissait son allure, sa façon de tenir les bras, sa façon de jeter les jambes en avant. C'est lui qui vient. Mais elle, à mesure qu'il approchait, et il était de plus en plus en dessous d'elle, lui, vu ainsi de haut en bas, voilà qu'elle attachait de plus en plus les yeux sur lui, pesant sur lui de tout leur poids pendant qu'un pli profond se creusait entre ses sourcils. C'est qu'il était un, et il devient deux. La masse confuse qu'il formait s'est partagée par le milieu. Il est maintenant tout près, mais il y a eu ce dédoublement, et cette autre moitié qui se présente à vous, c'est une personne avec une jupe et des gants, qui se tient un peu en arrière de lui et qui, comme il allait entrer à l'auberge, lui pose la main sur l'épaule. La tille a appelé, sa voix était rauque. Elle appelle encore, elle crie plus fort. Alors il se retourne, est-ce qu'il l'a seulement vue? Mais il s'est mis à rire, et, sans attendre davantage, prenant la femme par le bras, il a poussé la porte de l'établissement public. Elle, tout le monde a pu la voir. Tous ceux qui étaient là sur la petite place devant la porte du café et un peu en avant, et jusqu'au-dessous de l'église. Elle, tout le monde l'a entendue. Et elle ne s'est pas cachée. Mais, devant tout le monde, elle arrache son capuchon, elle se défait de son corsage. Les grelots ont sonné pour la dernière fois. Elle se tire hors de sa jupe. Elle a jeté loin d'elle d'un grand geste les diverses pièces de son costume. Elle reparaît, vêtue comme elle était autrefois, dans la vie, dans la véritable vie, dans la vie de tous les jours. Puis, vous tournant le dos, est partie à grands pas dans la direction de chez elle. « Eh, vous ne savez pas ?» Ces deux femmes, le lendemain. « Vous ne savez pas ?» La tia. « Non ?» Eh bien, venez voir. Elles ont été voir. Elles joignaient les mains. C'est qu'on ne s'y reconnaissait plus. Non pas que la maison eût changé, toujours petite et blanche, sous son toit de tuiles moussues, mais c'est ce qui faisait qu'on la distinguait de loin entre toutes les autres, les belles couleurs du jardin. Il n'y avait plus de jardin. La tia avait tout arraché. Il n'y avait plus devant la maison qu'un carré de terre nue, où les tiges jetées en tas étaient en train de se faner. Les iris, les bolis, les capucines, les ignats. La veille au soir déjà, elle avait tiré à deux mains toutes les plantes hors de terre, ou bien les avait coupées à ras du sol avec un sécateur, puis les avait foulées aux pieds. Elle venait d'ouvrir sa porte. « Qu'est-ce que vous faites là » a-t-elle dit aux deux femmes. Et celle-ci, « Oh, mademoiselle, vos belles fleurs, c'est dommage !» Ça vous regarde ? Elle tenait à la main une pelle à fossoyer, à la lame polie et luisante qu'elle a enfoncée en terre, puis se tourne vers vous. C'était une vieille femme, ses cheveux défaits et gras pendaient en mèche sur ses épaules. Elle ne s'était pas lavée. Les rides étaient sur sa figure comme une voilette en gros tulle noir. Son corsage, en flanelle coton grisâtre, était déchiré sous les bras. Ici se termine La folle en costume de folie de Charles Ferdinand Ramus.